Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
On va prendre ce matin le sujet les trois dimensions de la louange. Donc, je vais un petit peu, dans cet enseignement-là, vous donner les différentes formes de louange, différents termes qu'on utilise, vous aider à bien les comprendre spécifiquement. Parce que je crois que d'une manière générale, quand on parle de louange dans l'Église, on met tout dans le même paquet. Mais à l'intérieur de ce paquet louange, il y a beaucoup de choses différentes. Et je crois que c'est important de les différencier, afin de bien les comprendre, qu'il y a plusieurs aspects, plusieurs dimensions fondamentales. Et je vais prendre comme base pour cet enseignement le psaume 95 au 95 pour la traduction. 95, versets 1 et 2. Ce psaume qui dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. » Donc c'est un psaume qui est très connu et je le décortique en plusieurs parties. Et à travers ces parties, je vais vous donner différents thèmes de la louange. Alors, on arrive avec ces deux premiers versets dans le premier thème. Et mon image, c'est une cible. Je vais vous donner la cible de la louange. Et la première cible à atteindre, c'est ce que j'appelle la reconnaissance. La reconnaissance. Dire merci. Alors, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? Alors, je vous donne des choses très pratiques, très simples. La reconnaissance, c'est dire merci pour la vie. Merci pour la santé, pour votre corps. Merci pour qui je suis, c'est votre identité. On en a déjà un petit peu parlé hier, l'identité. C'est important d'arriver à dire merci pour la manière dont Dieu m'a créé. Dans ma personnalité, dans mon corps, dans mes dons. Merci pour les biens, être aussi concret, parce que Dieu nous fait des grâces, nous donne des choses, et les biens que nous possédons sont des grâces et des cadeaux de Dieu. Ce n'est pas juste parce qu'on les a obtenus. Merci pour le travail. Combien de gens se plaignent de ne pas avoir de travail, d'être au chômage, d'être dans les difficultés. On peut être reconnaissant pour le travail qu'on a, ou les études, ou la période de notre vie. Merci pour ma famille, les relations, les gens qui sont autour de moi, les gens que Dieu a placés autant avant moi, les parents, mes oncles, les tantes, les grands-parents, que ceux qui sont à mes côtés, époux, mari, femme, et les enfants. Merci pour mon pays. Est-ce qu'on arrive à aimer suffisamment son pays pour remercier Dieu de notre nationalité, de notre nation? C'est important aussi. Ça nous donnera une toute autre attitude dans la prière, dans l'intercession. Si on n'arrive pas à dire merci, on ne va pas pouvoir prier. Vous comprenez? Et tous ces merci nous donnent une assurance que Dieu est là avec nous. Merci pour les autres. On vit dans une société, dans une église, dans un village, dans un endroit où il y a des autres autour de nous. Dieu nous demande de les bénir. Dieu nous demande d'être reconnaissant pour ces gens-là. C'est souvent plus facile de voir les problèmes, de voir ce qui nous plaît pas chez les autres. Mais si on apprend à dire merci déjà, merci de m'avoir donné ses voisins, merci de m'avoir donné ses compatriotes, merci de m'avoir donné ses amis, ça va changer l'attitude. Donc merci, la reconnaissance c'est quelque chose qui est concret. Vous voyez, on s'appuie sur des réalités, sur des faits. Parce que des fois, on manque de concret dans la vie chrétienne. Un merci pratique, on a reçu une grâce, on a reçu un cadeau, on peut dire merci. Et moi, j'aime entendre dans l'église, dans le culte, quelqu'un qui dit merci pour une chose précise. Merci Seigneur parce que tu m'as donné un travail. Merci Seigneur parce que hier, tu m'as protégé sur la route. Merci parce qu'hier, j'ai reçu un cadeau. Merci pour cette offrande. Merci pour la nourriture. Merci pour les choses vraies, quoi. Ça veut dire aussi que ce merci, il est à long terme. C'est pas juste une fois, exceptionnellement. Ah, c'était Noël, j'ai eu un cadeau, alors merci. Hein? Toute la vie est cadeau. Dieu nous a fait cadeau de la vie, n'est-ce pas? Personne n'a acheté sa vie. Personne ne l'a vendue. On l'a reçue en cadeau. Donc, on peut dire merci au Seigneur pour ça. Dans ce merci, il y a l'idée de la soumission. Quand tu dis merci, ça veut dire il y a quelqu'un qui m'a donné. Donc automatiquement, tu es reconnaissant envers quelqu'un, tu es redevable. Et ça, c'est très important dans une société qui devient très égoïste, où chacun veut se débrouiller tout seul. En fait, Dieu nous a créés pour pas nous débrouiller tout seul, pour être dépendants les uns des autres, dépendants de lui et dépendants des autres aussi. Hein? Alors que Satan veut nous rendre indépendants, indépendants de Dieu et indépendants des autres, veut qu'on soit tout seul dans notre bulle et qu'on débrouille notre vie sans personne. Mais Dieu nous apprend à être dépendants. Et c'est très important. Donc, merci, ça peut être quotidien, chaque jour que Dieu a fait, hein, c'est une grâce, c'est un cadeau. Je me réveille ce matin, je te dis merci Seigneur pour cette journée. Et le résumé de tout ça, c'est un merci basé sur la vie, reçu en cadeau. C'est un cadeau la vie. Hein. Dieu vous a fait cette grâce, recevez-la, dites-lui merci. Donc moi j'aime bien encourager les chrétiens et l'église à être concrets. Et parfois dire ok, on va prendre un temps de reconnaissance et on va dire merci pour des choses vraies. Pour des choses qu'on a vécues. J'aimerais, et c'est quelque part un témoignage puissant de dire merci pour des choses concrètes. Donc on va voir maintenant des textes bibliques qui nous parlent de ça. Vous avez pu noter ça. Texte pour la reconnaissance. Donc, Luc 17, c'est un texte que j'aime beaucoup. Une expérience qui s'est passée avec Jésus. Luc 17, versets 11 à 19. Je vais vous lire ce texte. La guérison des 10 lépreux. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Je trouve ce texte très intéressant parce qu'il enseigne quelque chose de fondamental. Ces lépreux, ils sont dans une situation très difficile. Hein. Ils ont une maladie terrible qui les fait être éloignés, rejetés de la société. Jésus intervient dans leur vie d'une manière toute simple. Il leur dit « Allez vers les prêtres » et en allant, ils sont guéris. C'est-à-dire, un acte d'obéissance produit la guérison. Parfois, la guérison, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est faire ce que Dieu te dit. Hein. On connaît la guérison de Naaman aussi. Jésus lui a dit d'aller... Quoi, le prophète lui a dit « Va te tremper cette fois dans le Jourdain » et puis il trouve ça complètement fou, il ne veut pas le faire. Et son serviteur lui dit, mais il t'aurait demandé une chose difficile, mais là il te demande une chose facile. À la fois c'est facile, à la fois c'est difficile. C'est difficile pour l'orgueil, c'est difficile pour la réputation, mais c'est facile dans un sens, l'acte en lui-même. Là la même chose, ils font rien si ce n'est que d'obéir, d'aller, et ils sont guéris. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est qu'ils s'en vont. Et je crois que malheureusement, c'est trop souvent le cas dans l'Église, des gens ont été touchés par Dieu, ont été visités par Dieu et continuent leur route sans même être conscients de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et pourtant là, c'est quelque chose de gros, c'est quelque chose d'immense, une guérison physique. Et même dans nos conférences de guérison ou dans des grands rassemblements chrétiens puissants où il y a l'action de Dieu, il y a des centaines, des milliers de personnes qui viennent, qui sont touchées par Dieu et beaucoup oublient même ce que Dieu a fait. Et là, il y en a un qui revient. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit merci. Il se jette aux pieds de Jésus. Et il le glorifie, donc il lui dit merci. Il est conscient de ce qui s'est passé. Mais 1 sur 10, vous imaginez, 10%. Seulement 10% de reconnaissance dans l'Église, peut-être. C'est un pourcentage. Hein. 90% qui est là et qui dit, bon, c'est normal. Dieu doit me donner, Dieu doit me guérir, Dieu doit faire ça pour moi. Et beaucoup de gens manquent de reconnaissance et demandent, exigent beaucoup de Dieu. Mais là, il y en a un qui a compris. Et en plus, Jésus, il relève que c'est un étranger. Quelqu'un qui était non seulement lépreux, mais en plus étranger. Et les étrangers, à l'époque, ils étaient les Samaritains vraiment rejetés par les Juifs. Hein. Double problème, mais double reconnaissance. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus pose la question. Il dit, ils sont où les 9 autres ? Où est le 90% de l'Église qui a été guéri, qui a été délivré, qui a été sauvé, qui s'est avancé à cette réunion ? Beaucoup ont oublié ce qu'ils ont vécu. Mais la différence, c'est que Jésus lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. La reconnaissance a produit la foi. La reconnaissance, ça amène des bonnes choses dans nos vies. Cet homme, il a été beaucoup plus loin dans sa vie parce qu'il a été reconnaissant. Quand on apprend à être reconnaissant, on comprend que tout vient de Dieu. Et que nous, on n'est pour rien, et c'est Dieu qui est pour tout. Et que nous, toute notre responsabilité, c'est de dire merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la guérison. Mais même s'il n'y a pas de guérison, merci. En attendant, merci déjà. Et puis après, merci. Vous savez, les gens qui disent justement, je vais louer Dieu quand je serai guéri. Quand ils sont guéris, ils oublient même. Parce qu'ils ne l'ont pas fait avant. Mais je suis sûr que celui-là était déjà en bonne relation avec son Dieu pour accepter, pour recevoir cette guérison et le remercier. Donc j'encourage le peuple de Dieu, les chrétiens, à être reconnaissants pour ce que Dieu fait en toutes circonstances, hein, et d'une manière précise. Et ça va produire la foi, ça va augmenter la foi dans vos vies, parce qu'on reconnaît d'où ça vient. Donc cette foi augmente. Un autre texte, Romains 12, verset 1. Vous connaissez sans doute ce texte, qui est très important aussi par rapport à la louange et que je vais reprendre aussi dans plusieurs situations. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, être reconnaissant, c'est offrir sa vie au Seigneur. Dieu dit, je peux me servir de ton corps. Il dit, offrez vos corps. Il veut ta vie entière. Et la reconnaissance, ce n'est pas juste des paroles. Parfois, c'est des paroles. Mais déjà, plus loin que les paroles, c'est offrir sa vie. Servir Dieu par sa vie. Je pense que c'est votre appel, si vous êtes là. C'est ce que vous désirez. Ben, c'est un sacrifice agréable à Dieu. Et Dieu accepte ce sacrifice-là. Ensuite, Romains 1, verset 25. Ça, c'est très intéressant. Versets 21 à 25 dans Romains 1. Il y a une compréhension forte dans ce texte. Je lirai déjà depuis le verset 24. « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes? Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. » De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire qu'ils méritaient, que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés au sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de jalousie, de malignité, etc. Et juste la fin, verset 32, « Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ce qu'ils le font. » Ça, c'est le reflet d'une société sans Dieu, hein, qui s'éloigne de Dieu, qui s'oppose au plan de Dieu, qui a des conséquences. Mais le déclenchement de cette conséquence, c'est l'homme qui refuse d'adorer Dieu et qui adore la créature au lieu du Créateur. Dieu dit, mais c'est un piège terrible. Et combien aujourd'hui, dans la pensée du monde occidental, du nouvel âge, combien c'est fort, aujourd'hui, l'homme préfère adorer n'importe quoi, sauf Dieu. Hein? Dans nos générations anciennes, dans nos cultes païens, dans nos cultes, dans notre histoire, on retrouve ça. Avant, on adorait les arbres, et puis on trouve ça encore aujourd'hui. Le soleil, la lune, les animaux, et toutes ces choses de la nature. Et Dieu dit, mais qui c'est qui a créé toutes ces choses? Allez au bout, allez au fond. Qui est derrière les arbres? Qui est derrière les animaux? Qui est derrière la terre? C'est moi, chez moi votre créature, votre créateur. Ne vous arrêtez pas à la créature. Et à cause de cela, l'homme est conduit dans le péché, dans l'éloignement, parce qu'il refuse de reconnaître le créateur. Donc, si on lit juste le contexte avant, il explique bien verset 21, « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme tel. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais leurs pensées se sont égarés et leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. » Ça, c'est le verset clé, le verset 21. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas remercié. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de Dieu, qui ont connu une certaine chose de Dieu, mais qui ont dit, bon, ils ont mis ça de côté. Et ils ont oublié. Et à cause de cela, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Leur cœur a été plongé dans les ténèbres. La conséquence d'une non-adoration, d'une non-reconnaissance, ça amène les ténèbres dans ta vie. Donc ça veut dire que ça doit être naturel pour tout chrétien, pour toute créature humaine, d'être en connexion avec son Créateur et de lui dire merci. Parce que si tu crois en Dieu, tu dis bah, merci de m'avoir donné la vie. C'est une évidence. Et ça amène la lumière dans ton esprit. Être reconnaissant amène la lumière dans ton esprit. Parce qu'être non reconnaissant amène les ténèbres. Donc c'est l'opposé, vous comprenez? C'est très important de voir cela. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, verset 22. Dieu, des fois, n'est pas tendre avec nous. Hein. Mais on devrait dire ça à certains hommes politiques, à certains philosophes, à certains grands penseurs de ce monde, qui se vantent d'être sages, qui se croient très intelligents parce qu'ils ont écrit des livres où ils expliquent certaines choses. Mais pour Dieu, ils sont fous parce qu'ils ont oublié l'essentiel, qui est le Créateur, lui-même, la relation avec lui. Donc, je crois que la reconnaissance est fondamentale pour notre vie. Je vous donne quelques autres textes, on ne va pas tous les lire, mais je vous les cite, vous pouvez les noter comme référence pour la reconnaissance. Le psaume 18, c'est le roi qui remercie après la victoire. Et là, il est très concret, il est très pratique, il dit merci d'avoir vaincu mes ennemis, et il donne même tous les détails. Hein. Des fois, aucune honte à dire ce que Dieu a fait, même dans des situations comme ça de combat, de guerre. Psaume 136, vous connaissez, ça parle de sa miséricorde qui dure à toujours. Hein. Et puis, il y a la description de la miséricorde de Dieu. Ce verset revient sans cesse et chaque phrase explique ce que c'est la miséricorde de Dieu d'une manière concrète dans la vie. Et des fois, j'aime utiliser ce psaume dans la louange et inspirer les gens et leur dire maintenant, pourquoi sa miséricorde dure dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux dire? Et chacun peut donner une phrase ou une expression de ce que Dieu a fait dans sa vie. Psaume 139, c'est le célèbre psaume qui parle de notre création. Hein. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Si merveilleuse. Donc j'espère que chacun peut prier ce psaume, peut le dire pour lui-même, pas seulement le penser pour l'humanité d'une manière globale, mais le dire pour lui. Ça c'est important d'être reconnaissant pour la création de Dieu. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 5, on va le lire. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Donc, en toutes circonstances, louez Dieu. La reconnaissance, c'est aussi cela. Des fois, les circonstances ne sont pas si favorables, mais apprendre à remercier Dieu parce qu'il est le Dieu de la miséricorde, le Dieu de toute consolation. Et il va nous consoler, nous, afin qu'on puisse aider d'autres. Donc on apprend déjà à remercier. Il ne nous dit pas qu'il y aura la solution tout de suite. Nous, on attend toujours les choses dans le temps, mais la fidélité de Dieu est là, et ça nous donne un sens à notre connaissance. Et Philippiens 4, versets 11 à 13, vous connaissez ce texte qui dit « Je sais vivre dans l'abondance et dans la pauvreté, j'ai appris à être content en toutes choses. Hein? » Il explique quelques détails. Paul, c'est très concret. Hein, parce que Paul, il a été auprès des rois, auprès des personnes dignes d'autorité. Il a été bien reçu. Puis d'autres fois, il a été dans les prisons. Il a été persécuté, frappé, rejeté. Donc, il a vécu les deux. Et il dit, j'ai appris à être content en toutes choses. Waouh. J'aimerais bien voir la vidéo de sa vie. Hein. Peut-être qu'au ciel, on pourra aller dans la DVTech et puis regarder, là, choisir Paul. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Comment il a été reçu? Comment il a réagi? Parce que le plus important, c'est surtout sa réaction. Hein. Et nous aussi. Ce n'est pas juste les exploits qu'il a fait pour Dieu, mais comment il a vécu dans les difficultés, dans la persécution, comme dans la victoire. Et les deux peuvent être un piège. Il a été reconnaissant. Et on l'a lu dans les épîtres hier de Paul, combien... Presque à chaque chapitre, il dit « Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Pour vous, pour les églises, pour les frères, pour la situation, etc. » Tout le temps, c'est dans sa langue, c'est dans sa bouche. Il rend grâce à Dieu. Et c'est une bonne habitude qu'il a pris. Maintenant, on va passer un peu plus loin dans le psaume. Donc, la reconnaissance, c'est très clair. Je pense que vous avez compris, c'est être précis sur la vie concrète que nous avons. Psaume 95, versets 3 à 5. On avance un petit peu. Dans ce texte, et voilà ce qu'il nous dit ce psaume. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et le sommet des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Donc là, tout d'un coup, après qu'on est arrivé dans sa présence avec la reconnaissance, on est devant Dieu, et on commence à connaître Dieu, on commence à voir Dieu, à décrire qui est Dieu. Et c'est ça que j'appelle la louange. Donc vous avez toujours une cible, la reconnaissance, c'est l'extérieur, la louange, ça devient déjà le centre de la cible. La louange, En français, on utilise le terme louange d'une manière générique, c'est-à-dire qu'on dit tout, c'est la louange, on va faire un temps de louange. Mais dans ce qu'on appelle le temps de louange, il y a la reconnaissance, il y a la louange, et c'est là maintenant la louange spécifique dont je vous parle. Alors, qu'est-ce que c'est la louange ? La louange, c'est déclarer qui est Dieu. On parle de Dieu dans la louange. Dans la reconnaissance, vous avez vu, on a parlé de nous, de ce que Dieu faisait pour nous. On était en relation avec Dieu, mais c'était lié à nos vies. Maintenant, on oublie un peu nos vies et on commence à se concentrer sur Dieu. On proclame ses qualités. Dieu a plein de qualités. Si on lit vraiment bien la parole, on comprend ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à louer Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas les qualités de Dieu. Ils ont une fausse image de Dieu. Ils ont une fausse image à cause peut-être de leurs parents, de leur éducation, de l'église, de ce qu'ils ont vu. Et ils pensent que Dieu est comme ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Même si Dieu se présente comme un père, il n'est pas comme ton père. Hein? Ou il n'est pas comme ton pasteur, ou comme ton prêtre, ou comme celui que tu as connu comme l'ecclésiastique, comme une référence. Dieu est bien plus grand que ça. Hein? La louange, c'est glorifier le Seigneur, c'est-à-dire lui donner la gloire. On peut le dire comme ça aussi, dire du bien de Dieu. Quand tu es fier d'une personne, quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à en parler à quelqu'un d'autre. Mais écoute, ça c'est un ami. Tu sais, l'autre jour, j'étais dans les difficultés, il m'a aidé, il m'a prêté son téléphone, il m'a prêté sa voiture, il est venu avec moi, il a pu... C'était vraiment fantastique. Et ça, c'est exactement la louange. Tu dis ce que Dieu a fait pour toi et tu dis surtout comment il est. Ah, il est fidèle, je peux compter sur lui. Je sais que c'est quelqu'un qui est avec moi. Donc, tu témoignes de ses qualités. Et combien de fois dans la louange, j'ai été touché d'entendre un frère, une sœur prier et déclarer quelque chose de Dieu que je n'avais pas réalisé. Et connaissant la vie de ce frère ou de cette sœur, d'entendre cette prière, ça m'a touché. Hein? La qualité de Dieu se manifestait comme ça. Célébrer sa personne. On fait la fête pour Dieu. Finalement, la louange, c'est ça. Vous savez, dans le monde, on fait des fêtes pour toutes sortes d'occasions, toutes sortes de circonstances, pour des anniversaires, pour des entreprises, pour des villages et autres, pour des nations. Mais finalement, la louange, c'est la fête à chaque fois pour Dieu. On fait la fête pour lui. Apprécier ses noms. Dieu se présente dans la Bible sous toutes sortes de noms. Hein? Éternel, Seigneur, Sauveur, Berger, Maître, Étoile du Matin, etc. D'après une étude, je crois que Dieu possède en tout cas plus de 250 noms différents. 250 noms dans la parole. Entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit et tous ces noms que j'ai commencé à vous citer. Vous pouvez faire un répertoire et ça vous aidera beaucoup à comprendre Dieu. Si Dieu se présente sous ces 250 noms, ce n'est pas parce qu'il veut se cacher. Hein? C'est parce que chacun de ces noms représente une autre facette de son identité. Quand Dieu dit « je suis le bon berger », ça veut dire quoi ? Ben, prenez l'exemple. Pourquoi il prend l'exemple du berger ? Parce qu'un berger, il s'occupe de ses brebis. Et non seulement c'est un berger, mais c'est un bon berger. Il va chercher celle qui est perdue. Il va les protéger des animaux sauvages. Il va les nourrir. Il va les soigner. Il va les mettre à la bergerie. Voilà. Et ça, c'est juste un nom. Ensuite, il dit qu'il est le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le chemin ? Il nous montre où aller. Il a la bonne direction. C'est sûr, on peut marcher sur quelque chose de solide. On sait où on va. Vous voyez ? La vérité. C'est quoi la vérité ? La vie, la lumière, l'étoile du matin, le maître, le sauveur, le seigneur. Il y a tellement de noms. Chaque nom est un sujet de louange. Vous pouvez prendre un nom et faire un culte de louange avec un nom de Dieu, simplement. C'est quoi l'Éternel des armées, le maître de l'univers, le créateur. Donc ça, c'est la richesse de la louange. C'est très vaste. Hein? C'est pour ça qu'on a besoin aussi de nouveaux chants, de nouvelles expressions, parce que tout d'un coup, on découvre des nouvelles choses. Et puis qu'on a besoin de puiser dans la parole pour comprendre qui est Dieu. Comme moi, je m'applique, quand je lis la parole, à découvrir les noms de Dieu, à les répertorier, à les souligner et avoir une liste de tous les noms de Dieu. Comment il est Dieu ce matin ? Eh bien, il est toujours tous ses noms, mais tout d'un coup, il y a une partie de ces choses qui se révèlent à moi. Et ça, c'est un sujet de louange. Et chaque nom peut inspirer même un chant de louange. Et vous savez bien, quand on chante un chant qui parle, par exemple, de la fidélité de Dieu, ben, tout à coup, cette fidélité commence à nous travailler, ça revient dans nos pensées, ça descend dans notre cœur, et ça a de l'effet pour nous. Et tous ces noms-là peuvent être importants. Donc la louange, c'est apprécier les noms de Dieu, et c'est en toutes circonstances. Le piège, peut-être, d'aujourd'hui, c'est qu'on considère la louange comme quelque chose qui nous fait du bien dans certains moments, dans certaines situations, ou qu'on pratique à certains moments. Mais une vraie louange biblique, ça sera en toutes circonstances. Et on verra des textes pour cela. Louer Dieu, pas les choses ou les situations. Je m'explique. Parfois, j'ai entendu des enseignements qui disaient, il faut louer Dieu pour toutes choses. C'est-à-dire qu'on va se mettre à louer Dieu. Merci Seigneur pour la maladie, merci Seigneur pour l'accident, merci pour les problèmes. Non, on ne va pas louer les choses, on va louer Dieu. Merci Seigneur parce que dans cette maladie, tu es là avec moi. Et ça, c'est la différence. Je ne vais pas dire merci à la maladie, je vais dire merci au Seigneur. Parce que même dans la maladie, il est là. Même dans les manques financiers ou émotionnels ou économiques ou autres, Seigneur, tu es là et je compte sur toi et je te dis merci. Donc la louange, elle s'adresse toujours à Dieu. Hein? On ne va pas se mettre à louer toutes les choses qui nous arrivent. Parce que là, on tomberait dans un piège. Ce ne serait pas juste, pas correct. On l'a lu dans le psaume 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc là, ça enlève tous les obstacles et on est appelé à le louer tout le temps, tant qu'on respire. Ça veut dire que c'est pour tout le monde, la louange. J'accepterai aucune limite à la louange. Tout ce que les limites que les dénominations, les églises, les leaders vont mettre, je vais dire c'est faux. C'est faux, c'est pas juste. Parce que la Bible ne met pas de limite à cette louange. Et on va voir ça dans quelques textes bibliques. Alors, vous connaissez sans doute ce texte, Job 1, verset 21. Je vous le cite, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et on le chante, hein, dans un chant très connu, « Béni soit ton nom, tu donnes et tu reprends. » Et beaucoup de gens ont de la peine à comprendre ça. Hein. Ils se disent, mais comment on peut chanter ça? Mais Job, vous connaissez l'histoire de Job. Job est un homme selon le cœur de Dieu. Il avait toute la richesse, il avait toute la plénitude, il avait la paix, il avait une belle famille. Et Satan vient tenter Dieu avec Job. Et dire, mais c'est normal qu'il soit plein de louanges, parce que tu le bénis tellement. Enlève-lui tout ça et tu vas voir. Et Dieu accepte ce défi de Satan. Connaissant son serviteur Job, mais en même temps prenant un risque, parce qu'il dit peut-être que Job, il va mal réagir. Hein? Et combien de chrétiens réagissent mal dès qu'il leur arrive le moindre problème? Oh, mais si Dieu était là, il ne me serait pas arrivé cela. Et pourtant, dans la situation de Job, Dieu était là. Dieu était là, mais il a laissé certaines choses se passer et permettant aussi à Job de tester sa foi. Donc parfois dans nos vies, nos épreuves, notre réaction face aux épreuves sont le test devant Dieu et devant les puissances, devant les démons, devant les anges, devant l'ennemi. Et je crois que Dieu, je le vois un petit peu comme un entraîneur hein, de sport, de football. Puis il est là avec son équipe, il dit, mais est-ce qu'il va marquer? Ou est-ce qu'il va se décourager? Est-ce qu'il va arrêter de courir? Parce qu'on ne lui a pas passé la balle, ou parce qu'il est un peu fatigué, ou est-ce qu'il va continuer de marquer pour moi? Et je crois que ça, c'est le test qu'on passe tous dans notre vie chrétienne. Il y a des moments où les circonstances sont difficiles, et Dieu regarde si on va quand même le louer. Et Job, il a passé ce test, et d'une manière tellement extrême, parce qu'il avait tout, et tout à coup, il n'avait plus rien. Il a tout perdu. Hein? Même sa santé, même ses bien-aimés. Les choses matérielles, c'est une chose, mais en plus, hein, ça atteint son corps, son âme, au plus profond, et il a continué de louer Dieu et de bénir Dieu. Donc moi, je prends ce texte aussi comme une référence, un extrême, en me disant, Seigneur, j'ai des difficultés, mais je ne suis pas au stade de Job. Hein? J'ai encore ma famille, j'ai encore des choses dans ma vie qui me permettent de te louer, même s'il y a certaines choses qui me manquent ou qui sont en problème. Hein? Je pense que c'est très bien d'apprendre à relativiser les choses. Et Job est un exemple pour nous, une référence qui nous montre jusqu'où peut-être l'adoration peut aller dans les circonstances les pires. Psaume 103. Vous connaissez ce psaume aussi. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit toutes mes maladies, qui pardonne toutes mes fautes. Waouh! On décrit Dieu dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Et c'est Dieu qui agit dans nos vies. À la fois, parfois, on ne voit pas son intervention, puis parfois, on voit une intervention puissante qui change nos cœurs, qui change nos vies. Et c'est intéressant parce que David, il parle à son âme. Vous êtes déjà arrivé de vous parler à vous-même. Hein? Des fois, on a besoin, parce qu'il n'y a personne à côté de nous pour nous secouer. L'entraîneur, on ne l'entend pas. La femme n'est pas là. Le mari n'est pas là. Le pasteur n'est pas là. Et on est tout seul. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rester découragé? Oh, ce matin, je suis fatigué. Je ne suis pas en forme. Ça va être dur. Qu'est-ce qui va se passer? David, il dit, vas-y mon âme, réveille-toi. Loue l'Éternel. Secoue-toi. N'écoute pas les mensonges. N'écoute pas la fatigue. Écoute ce que ton esprit dit, écoute ce que le Saint-Esprit te dit ce matin, tu peux louer l'Éternel. Et tu peux te souvenir, peut-être ce jour-là, il était fatigué, il avait mal à la tête, mais quand même, il proclame, Dieu guérit toutes mes maladies. Hein? Ce n'est pas parce que la circonstance actuelle n'est pas 100% que tu ne peux pas bénir Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il va encore faire. Et ça, c'est la force de la louange. C'est basé sur qui est Dieu. Psaume 97 aussi le décrit très bien, présente Dieu. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. Ça peut être déjà une raison suffisante pour le louer, parce que Dieu règne. Waouh, on est encore sur la terre avec le règne de Dieu. Alors on peut louer. Et puis que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'environnent. Ça, c'est la situation du monde. Il y a toujours les nuages et l'obscurité autour de nous. Les ténèbres sont là. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui. Donc même qu'il y a les ténèbres, il y a toujours la justice, il y a toujours l'équité dans Dieu. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Donc Dieu combat ses ennemis. Incroyable. Ses éclairs illuminent le monde. On pourrait avoir peur des éclairs. Et pourtant, là, c'est positif. Ça donne la lumière. La puissance de Dieu se manifeste et il se passe quelque chose. La terre le voit et tremble. Des fois, c'est bien qu'on tremble devant Dieu. Hein? La terre doit se rappeler que Dieu existe. Et des fois, il faut des grandes secousses pour que les hommes reviennent à Dieu. C'est terrible. Ce serait mieux qu'il n'y ait pas besoin de ça, mais Dieu, des fois, est obligé de secouer la terre pour que les hommes reviennent à lui. Les montagnes se fendent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice. Donc, déjà, maintenant, et depuis toute l'éternité, dans le ciel, les anges louent, les anges adorent, les anges publient la justice de Dieu. Et ça continue. Ça ne va jamais s'arrêter. Personne ne pourra couper cette radio. Elle va toujours émettre. Les anges proclament la justice de Dieu. Et tous les peuples voient sa gloire. À cause de ça, les peuples peuvent voir sa gloire dans l'univers, dans la création, etc. Donc, tellement de psaumes décrivent la louange. Et puis, on peut continuer. Je passe parce qu'il y aurait... on peut passer l'heure à lire chaque 1, 2, 3 psaumes. Mais je vous en cite plusieurs qui sont des psaumes de louange. Psaume 47. Vous, tous les peuples, battez les mains. Hein, poussez vers Dieu les cris de joie. Pourquoi on fait ça? C'est ça la question. Pourquoi on le fait? Parce qu'il y a quelqu'un devant qui est au micro qui dit « S'il vous plaît, tapez dans les mains. » Si vous faites ça juste parce qu'il y a quelqu'un, alors quand il n'est plus là, vous allez arrêter. Hein? Mais si vous le faites de vous-même, parce que la Bible dit, ça sera beaucoup plus solide, beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que l'Éternel est le Très-Haut. Il est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il choisit notre héritage, etc. Dieu est Dieu. Dieu est puissant, Dieu est grand, ça c'est la louange. Psaume 105, versets 1 à 10, je vous laisse juste prendre note, et 1 Chronique 29, versets 10 à 20. 1 Chronique 29, c'est le texte de David que je vous ai lu hier, qui décrit comment David rend grâce à Dieu à la fin de sa vie. Hein? Bien qu'il ait fait tellement de grandes choses, il donne toute la gloire à Dieu. Il dit, je ne suis rien, mon peuple n'est rien, c'est toi qui es tout Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Pour ce que tu es. Et vous pouvez rajouter à votre liste encore des dizaines de textes. Trouvez des textes qui parlent de la louange, qui décrivent Dieu. Utilisez ces textes dans votre louange personnelle ou pour conduire la louange dans l'église. C'est très important. Ne ramenez pas les gens à vous-même. Le plus grand défaut que je vois dans la louange, c'est que les gens qui conduisent la louange, ils les ramènent à eux. Mais tu sais, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pensé ci, j'ai pensé ça. C'est pas ça qu'on veut savoir. Ça, c'est un moment où tu vas témoigner, c'est autre chose. Mais dans la louange, tu tournes les gens vers Dieu. C'est Dieu qui doit venir. Donc parle de Dieu, présente Dieu, et c'est Dieu qui doit être glorifié, qui doit recevoir la louange. On parlera de la direction de la louange, et je donnerai beaucoup de choses sur ce sujet concret. Maintenant, on continue dans notre psaume 95, on avance, versets 6 et 7. Il est écrit, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Car il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix. Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Donc, tout à coup, dans ce psaume, vous savez, on est venu à la maison, c'est le premier, on l'a acclamé. Ensuite, on a regardé Dieu et tout à coup, on est devant Dieu et le psalmiste nous dit « Venez ». Il nous appelle encore à bouger. Pourtant, on est déjà devant Dieu, mais ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin. Il dit, venez, et qu'est-ce qu'on va? On va aller où? On va aller se prosterner, s'humilier, fléchir le genou. Ça veut dire qu'il y a une autre attitude. Dans la louange, on est encore bien debout, on a les bras levés, les yeux vers le ciel. Et tout à coup, on se courbe, on avance, on vient plus près, et on se met dans une attitude beaucoup plus humble encore. Hein? Et c'est ça, troisième dimension. Donc, reconnaissance, louange, le centre de la cible, c'est l'adoration. L'adoration, c'est différent de la louange. C'est différent de la reconnaissance. Voilà. Le centre de la cible, c'est l'adoration. C'est même toute la cible. Le but, c'est ça. En même temps, il y a trois dimensions différentes. En même temps, le but qu'on veut, c'est être dans l'adoration. Alors, c'est quoi l'adoration? Alors, je vais vous donner quelques pensées sur l'adoration. L'adoration, c'est s'arrêter devant Dieu. Quand tu as prosterné et plié ton genou, ben, tu es arrêté. Tu ne peux pas avancer. Hein? Tu es arrêté devant Dieu. Et on a besoin de ça. Se prosterner, c'est un signe de soumission. C'est un signe de révérence, de reconnaissance de qui est devant nous. Tu ne te prosternes pas devant n'importe qui, n'est-ce pas? Tu ne vas pas rencontrer quelqu'un de la rue et puis te mettre à genoux devant lui, comme ça. Mais si tu es invité dans la maison de quelqu'un de très important, très digne, et qui t'impressionne, et tu sais que toi, tu n'as pas grand-chose vis-à-vis de lui, tu vas te prosterner devant un grand roi, devant un grand président, un grand chef. Tu vas au moins te courber pour reconnaître son autorité. L'adoration, c'est aussi se consacrer. Quand tu es tout prêt, comme ça, à genoux, ça signifie beaucoup de choses. C'est-à-dire, je me consacre. Je réalise combien tu es important et combien je peux te donner de ce que je suis. Ça veut dire aussi se taire et écouter. Donc, dans l'adoration, parfois, il n'y a plus de chant. Il n'y a même plus de prière. Mais il y a Dieu qui est là. Et vous savez, le défaut des chrétiens, c'est que des fois, ils parlent beaucoup trop. Ils ont tellement de choses à dire à Dieu. Puis Dieu aimerait aussi parler, mais il n'a pas le temps de parler. Vous avez déjà entendu quelqu'un au téléphone qui parle tout le temps? Dans les films, on voit ça comme ça. Hein. Au bout d'un moment, le gars, il fait comme ça avec le téléphone. Hein. Puis on entend la voix qui sort toujours. Hein. Mais il n'écoute même plus. Et parfois, j'ai l'impression que les chrétiens, avec Dieu, on est comme ça. On parle tellement, tellement que Dieu, il doit, au bout d'un moment, dire, OK, est-ce que je peux parler? Il doit nous arrêter pour parler. Et dans l'adoration, normalement, une vraie adoration, il y a un moment où tu dis, OK, je me tais. Je t'écoute. C'est à toi la parole maintenant. Ça veut dire reconnaître notre place. Quand tu te mets à genoux, tu dis, OK, c'est pas moi le patron, c'est pas moi le chef, c'est toi. Et combien on a besoin de ça dans notre vie? En même temps, Dieu nous a donné des capacités incroyables de nous débrouiller dans la vie, de vivre, de marcher, de travailler, de dormir, de manger, etc. Puis en même temps, il nous dit, mais tout ça, ça vient de moi, n'est-ce pas? Donc, reconnaître notre place, c'est dire, OK, c'est toi le créateur, je suis la créature. Tu m'as créé. Et j'ai besoin de me rappeler ça. Parce que parfois, on l'oublie. Hein? On sait que Dieu est là, mais en même temps, on le met plutôt à nos côtés, face à face. Alors que, quand même, il est supérieur. Hein? Et c'est bien de le reconnaître. Donc, on s'humilie devant Dieu. Pardon d'avoir vécu sans toi. Pardon d'avoir... Ça peut être, bien sûr, un moment déjà de conversion dans l'adoration. Et une vraie conversion passe par une adoration profonde. Mais c'est quelque chose qui doit rester dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas juste une expérience, une fois. Tout à coup, il y a la proximité du Père. On réalise que Dieu est le Père et qu'on est ses enfants. Et c'est bon d'être dans cette intimité. Alors pour certains, c'est problématique parce que vous n'avez jamais eu cette intimité avec votre vrai Père sur la terre. Vous n'avez jamais eu un temps comme ça d'arrêt, d'écoute de quelqu'un. Et tout à coup, de vivre avec Dieu, ça peut être difficile. Mais c'est notre appel et Dieu s'attend à ce qu'on s'approche de lui. Le temps d'intimité avec Dieu, seul à seul avec lui. Donc à la fois on peut le vivre tout seul, chez soi, dans la maison, dans la prière, dans notre culte personnel. À la fois on peut le vivre même en communauté avec l'Église tout entière. Mais c'est comme si on est chacun dans l'intimité avec lui, mais tous ensemble dans cette intimité. Et l'intimité de Dieu aussi avec tout son corps qui forme son épouse. Donc on est beaucoup d'individus, puis en même temps on représente une personne, son épouse. Et c'est une intimité proche que Dieu veut. Donc c'est un choix où on choisit de dépendre de Dieu. Comme je l'ai dit, Satan veut nous rendre indépendants de Dieu. La vie veut nous rendre indépendants. Hein? Et l'homme, d'une manière naturelle, dans son être humain, veut être indépendant. Je suis assez grand. Regardez les enfants comme ils veulent tout de suite savoir faire tout seul. Hein? Mais papa, j'arrive, laisse-moi faire. Hein? Laisse-moi la voiture, laisse-moi jouer, laisse-moi partir. Tout de suite, ils pensent. Et en fait, des fois, ils arrivent, mais des fois, ils n'arrivent pas. Et tout à coup, quand ils n'arrivent pas, ils disent « Papa, tu peux m'aider ?» Et ils reviennent. Et puis des fois, les chrétiens, on est un peu comme ça aussi. Hein? On essaye sans Dieu, même qu'on est chrétien. Puis quand on a fait une erreur ou quand on s'est trop éloigné, on dit « Ah Seigneur, au fait, je reviens. Est-ce que tu pourrais pas m'aider ?» Alors, je pense que c'est mieux de choisir directement. « Ok Seigneur, je sais que tu es bon. Tu as des bons plans. Tu as le meilleur pour moi. Je choisis de dépendre de toi aujourd'hui, ce matin, pour cette journée et pour toute ma vie, pour tous mes projets. » Donc l'adoration, ça revient parfois à être un acte plus que des paroles. Dans la louange, tu dis beaucoup de choses. Dans la reconnaissance, tu dis beaucoup de choses. Dans l'adoration, parfois, tu te rends compte que maintenant, Dieu, il attend de toi un acte, une obéissance. Hein? Il attend plus seulement une discussion. Parce que tu lui as déjà dit beaucoup de choses. Il dit, ok, maintenant, prouve-moi. Comme dans un couple, comme dans une famille. Tes enfants, ils peuvent te dire, oui, papa, je vais t'obéir. Mais après, tu veux voir l'obéissance. Ce n'est pas juste la discussion, pas juste la promesse. Donc l'adoration, ça se concrétise par des actes. Il va en voir quelques exemples plus tard. Ça demande tout à coup un engagement total. Tu ne peux pas adorer à 50%, à 60%, même à 80%, même à 90%, c'est 100%. Si tu adores vraiment, tu fais un choix. Tu choisis Dieu à 100% au-delà des autres. C'est aussi un temps d'amour pour Dieu. C'est le cantique des cantiques, l'adoration. C'est un livre qui nous parle d'une intimité proche où on aime Dieu. Et Dieu a besoin de ce temps-là. Et nous en avons besoin. Dieu a besoin dans le sens qu'il apprécie, qu'il aime recevoir les louanges, l'adoration profonde de ses enfants. Dieu n'est pas frustré. Vous savez, Dieu, il n'a pas la frustration. Ça, c'est un homme qui invente ce mot, qui a trouvé ce mot parce que... L'homme peut vivre la frustration, mais Dieu n'est pas frustré. Mais cependant, il a choisi de nous aimer et de recevoir notre amour. Et il sait combien pour nous c'est important. Mais Dieu l'apprécie aussi. Donc, quand tu entres dans l'adoration, ça veut dire que tu es prêt à obéir. Obéir à Dieu, à ce qu'il veut pour toi, ce qu'il te demande. Alors, on va voir les textes pour l'adoration, les textes bibliques qui nous décrivent l'adoration. Jean 4, versets 21 à 24. Voilà le texte fondamental du Nouveau Testament. C'est... Donc dans Jean 4, on a le texte fondamental où Jésus enseigne sur l'adoration. Jésus n'a enseigné qu'une fois sur ce sujet, mais il a dit les choses les plus fondamentales, les plus importantes. C'est pour ça qu'on va regarder ça. Verset 21 à verset 24. Jean 4. Je dirais même depuis verset 19, Jésus rencontre cette femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire. Au puits, il y a une relation avec cette femme qui est assez surprenante. Il la touche, il lui parle d'une manière incroyable. Et cette femme lui dit... « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Pourtant, Jésus ne s'était pas annoncé comme prophète. Il n'avait pas un badge rouge, c'était marqué « Jésus, fils de Dieu, prophète. Hein? » Il était normal, il vivait comme ça, mais il avait la sagesse, l'intelligence, l'amour, et cette femme était bouleversée par sa situation. Elle dit « Ah, tu es prophète, tu comprends les choses de Dieu. Alors j'ai une question. » Elle ne dit pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. « Nos pères. » Les Samaritains, parce qu'elle est samaritaine, ont adoré sur cette montagne, c'est le mont Garizim, où dans les anciens prophètes avaient été déjà rencontrés Dieu. Et vous, vous dites qu'il faut, le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Donc cette femme, elle a un problème avec l'adoration. Elle voit une réalité, elle voit qu'il y a des Samaritains qui adorent sur une montagne et des Juifs qui adorent à Jérusalem. Qui c'est qui a raison? Quel est le meilleur endroit pour adorer? Et aujourd'hui aussi, nous avons beaucoup de gens qui ont cette même question. Les gens posent la question, mais... C'est où la meilleure église? C'est où la meilleure louange? Qui c'est qui a raison? Qui c'est qui est mieux? Est-ce que c'est mieux là-bas sur la colline, dans l'ancien temps, avec une petite chapelle, avec des vieux murs? Ou dans le nouveau temple moderne où tout brille, avec la sono, la guitare, le rétroprojecteur, les instruments? Qu'est-ce qui est mieux? Quel est le meilleur style? C'est mieux avec le djembé ou la batterie? Ou la guitare? Ou le piano? Ou l'orgue? Qu'est-ce qui est le meilleur instrument? Quel est le meilleur style? Quel est le meilleur lieu? Cette femme, elle ne comprend pas. Tout le monde dit qu'ils adorent Dieu, mais ils ne font pas tous la même chose. Et Jésus lui répond, c'est une réponse très importante, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. » Finalement, le lieu n'est pas important. On l'a vu en regardant la Bible, même déjà dans l'Ancien Testament, le lieu n'est pas important. Même s'il y a des lieux qui sont réservés pour ça, heureusement qu'on a des églises, des endroits où on se retrouve, ce n'est pas important. Si tout d'un coup l'église disparaît, ou si nous on n'est pas là, on peut continuer d'adorer. Ça, c'est la louange du Nouveau Testament. Donc, l'endroit est plus important. Dans l'Ancien Testament, il faut aller au temple chaque fois, chaque année. C'était très important. Maintenant, on dépasse cela. On peut aller partout pour adorer Dieu. Et femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Première chose, la connaissance. Tu peux adorer d'une manière religieuse, ou tu peux adorer d'une manière réelle. Il y a des gens qui disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. De la même manière qu'on peut dire aujourd'hui, moi je connais le président de la République. Je connais Nicolas Sarkozy. Ah, tu le connais ? Tu as été manger avec lui ? Quand ça ? Tu connais son numéro de téléphone ? Tu connais le nom de ses enfants ? Tu as été en vacances avec lui ? Ça, c'est connaître. C'est être en relation. Nous, on connaît parce qu'on a vu sa photo dans les journaux, puis on sait son nom, c'est tout. Mais on ne le connaît pas vraiment. Et pour les Juifs, le verbe connaître, c'est être en relation. Nous, on pense qu'on connaît Dieu. Beaucoup de gens sur la Terre, en Europe, en Afrique, disent « Je connais Dieu », mais ils ne le connaissent pas. Ils connaissent juste son nom. Ils disent « Oui, oui, il y a Dieu ». Mais ils n'ont aucune relation avec lui. Donc, Jésus dit « Il faut le connaître ». Tu ne peux pas l'adorer si tu ne le connais pas. Il y a des gens qui vont à l'église, qui vont au culte, qui vont à la messe, qui pensent rendre un culte à Dieu, mais qui n'ont pas de relation avec Dieu. Donc, la clé, c'est le connaître. Et ensuite, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, ça a déjà commencé avec Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc, les vrais adorateurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils adorent le Père. Ils adorent une personne. Ils adorent quelqu'un. Ils n'adorent pas une statue, pas un nuage, pas une nuée. Pas un truc bizarre, ils adorent une personne qui est en plus un père, un papa. Le papa, c'est celui qui donne la naissance, c'est celui qui donne l'identité, c'est celui qui donne l'autorité, c'est celui qui enseigne, celui qui forme, celui qui aime. Il y a tellement de choses dans le père aussi, dans le vrai père. Et comment est-ce qu'on adore le père ? En esprit et en vérité, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit, avec l'intelligence des choses de Dieu, pas avec l'intelligence humaine. L'esprit, ça veut dire pas « je sais comment est Dieu, je vais vous expliquer ». C'est le Saint-Esprit dans tes entrailles qui prie en langue ou en français ou dans n'importe quelle langue, mais qui, waouh, il y a quelque chose qui est en communion avec lui. Ce n'est pas une belle prière que tu as écrite et que tu répètes. Hein? C'est quelque chose qui vient de l'esprit. Et en vérité, ça veut dire vivre dans la vérité, être dans l'équilibre de la vérité. Parce que pour les Juifs aussi, la vérité, ce n'est pas une philosophie. Vous savez, les grands philosophes français, ils disent « moi, je vous présente une théorie, vous pouvez l'appliquer, mais vous n'êtes pas obligé de l'appliquer dans votre vie. C'est juste quelque chose, vous pensez que c'est juste, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein? Et c'est le problème de la politique aujourd'hui. Les politiciens nous disent beaucoup de choses, mais ils ne le font même pas eux-mêmes. Hein? Et beaucoup même de grands philosophes et de grands penseurs. Alors que dans la Bible, si la vérité, tu la connais, tu l'appliques. Quand Jésus dit quelque chose, ce n'est pas pour remplir ta tête, c'est pour te donner une action. Ok, on va continuer là-dessus.